Bonsoir mes frères, mes sœurs, ou bonjour, hein, selon votre position. Nous continuons donc le commentaire de 1 Samuel 22, du verset 6 au verset 23, jusqu'au verset 23. Donc la dernière fois, donc nous avons vu la fuite de David, ou que David était devenu un fugitif, poursuivi par Shaoul, et que David, donc, est parti mettre sa famille, ses parents, chez sa famille maternelle, en tout cas pas maternelle, mais oui, c'est ça, chez sa lignée maternelle. À Moab, puisque Ruth était une Moabite, voilà, son arrière-grand-mère, et que les frères de David sont venus se joindre à lui, puisqu'ils ont vu la perfidie du roi Shaoul, et de même, tous ceux qui avaient des problèmes, tous ceux qui étaient mécontents de la gouvernance de la gouvernance donc de Shaoul. Et tous ces gens-là ont formé au moins 400 hommes. Et il y a aussi un prophète avec David, le prophète Gad, qui va jouer le même rôle que Samuel a joué auprès de Shaoul. Et ce prophète lui a dit une parole de l'Éternel d'aller en Juda, de retourner en Juda, parce que c'est là où se trouve sa bénédiction, c'est là où l'Éternel a prévu de le bénir, c'est là, voilà, qu'il ne devait pas être dans la fuite tout le temps. Nous aussi, nous ne devons pas être dans la fuite. Nous devons aller sur le terrain. C'est en bougeant qu'on met en valeur ses talents. C'est en allant que dans la parabole des talents, les serviteurs ont fait fructifier, ou bien Dieu a fait fructifier les talents qu'il leur a confiés. C'est en bougeant, c'est en allant, en faisant quelque chose. C'est pour cela qu'il a dit, il y a un verset dans le livre de Proverbes, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec force. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec force, avec diligence. Donc, et avec prière. Avec force aussi, c'est avec prière. Et avant cela, nous avons vu que David était passé à Nob quand il a pris la fuite, quand il était parti, quand il s'était séparé donc de Jonathan, ou bien Jonathan, l'Éternel a donné. Il est parti à Nob, dans la ville des sacrificateurs, où se trouve donc le sacrificateur, donc Ahimelech, fils d'Achitub, descendant d'Élie. D'Élie. Donc voilà. Et là-bas, dans cette ville de Nob, qui est composée essentiellement de sacrificateurs, de leurs descendants, et le jour où David s'était présenté chez Ahimelech, il y avait un des serviteurs de Shaoul, Doeg l'Édomite. C'est-à-dire, oui, l'Édomite ou l'Éduméen. L'Éduméen. Donc, la nouvelle de la présence de David, donc, est parvenue à Shaoul. On dit que Shaoul a pris le verset 6, que l'on avait des renseignements sur David, et sur ces gens. Shaoul était assis sous le tamaris à Gibeah, sur la hauteur, il avait sa lance à la main. Vraiment, Shaoul avait toujours une arme, hein, sa lance à la main, donc il est très adroit, ce monsieur, il est aguerri avec sa lance. Il avait sa lance à la main, et ses serviteurs se tenaient près de lui. Et Shaoul dit à ses serviteurs, qui se tenaient près de lui, écoutez, Benjamite, le fils d'Isaïe vous donnera-t-il tous ses champs et des vignes? Fera-t-il de vous des chefs de 1000 et des chefs de 100? Sinon, pourquoi avez-vous tous conspiré contre moi Et n'y a-t-il personne qui m'informe de l'alliance de mon fils avec le fils d'Isaïe? Pourquoi n'a-t-il personne de vous qui souffre à mon sujet et qui m'avertisse que mon fils a soulevé mon serviteur contre moi afin qu'il me dresse des embûches comme il le fait aujourd'hui? C'est jusqu'au verset 8. Voilà, nous voyons toutes les caractéristiques d'un politicien ici, ou d'un président cynique, d'un président qui est prêt à tout pour arriver à ses fins. Hein? Et nous remarquons qu'il n'appelle jamais David par son prénom, ou bien par son nom, parce qu'il n'y a pas de prénom dans la Bible. Il n'appelle jamais David par son nom, il appelle toujours fils d'Isaïe. Fils d'Isaïe, pourquoi cela? Bon, je ne sais pas, hein. Je pense que c'est méprisant. Il le minimise, puisqu'il ne le nomme pas. Il nomme pas David. Ou bien, c'est peut-être que c'est pas crainte, mais il nomme pas David, parce que le nom David veut dire bien-aimé. Il ne le nomme pas. Dans tout, hein, il appelle toujours fils d'Isaïe, fils de Jessé, si vous voulez. Et nous voyons que devant l'adversité, ça on le voit dans beaucoup de pays, hein, dans beaucoup de pays. Vous savez, il y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que nous voyons aujourd'hui chez certains présidents, chez certains politiciens, se voyait déjà à l'époque du roi Shaoul. Regardez comment il fait du tribalisme, du clanisme. Voyez, il essaie de regrouper ses semblables, les gens de sa tribu autour de lui, pour susciter en eux un sursaut tribaliste pour agir contre les Judéens. Regardez, il ne s'est entouré que des Benjamites. Il les a nommés serviteurs, chef de l'armée, le chef de l'armée même est un de ses cousins. Il leur a donné des champs et des vignes, vous voyez, pour avoir leur loyauté. C'est ce que font également beaucoup de politiciens, beaucoup de présidents aujourd'hui. Ils s'entourent des membres de leur tribu, même dans certains pays, même toute l'armée est composée de des cousins, des nièces, des neveux, des oncles, ou bien même toute l'armée, toute la garde est composée que des gens de la famille du président. Dans beaucoup de pays, c'est comme ça. Même ici, même partout, ou bien des fois, c'est des clans, ou bien c'est des membres d'une obédience donnée, mais qui sont dans la politique, qui sont nommés à des postes pour pouvoir avoir leur loyauté ou bien pour avoir tous les leviers du pouvoir. Parce que si c'est ton cousin, il ne va jamais te refuser quoi que ce soit. Même si c'est ton cousin qui est ministre des Finances, quand tu lui demandes de faire des malversations, il ne va pas dire non, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Oui, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On voit ici le cynisme de Shaoul, la perfidie, le mensonge, comme font beaucoup de politiciens. Voyez, il ment en accusant que Jonathan a suscité David, a poussé David à aller contre lui. Alors que non, Jonathan, guidé par l'Éternel Dieu, était là simplement pour que les choses se passent au mieux, pour qu'il n'y ait pas de sang, pas d'effusion de sang, parce que Jonathan a compris que la royauté était passée donc de Benjamin à Juda. Et Jonathan, étant dans l'esprit de Dieu, étant dans la même dynamique que Dieu, a aidé à réconcilier Shaoul et David afin que la succession se fasse sans effusion de sang, sans guerre civile. Or, ici, avec ce que Shaoul a dit à ses frères benjamites, directe, la guerre civile qu'il veut proposer. Il est en train de susciter les Benjamites, d'opposer les Benjamites contre les Judéens, contre David, en disant que si c'était David, vous n'aurez pas ce que vous avez là. Et beaucoup de politiciens jouent là-dessus. Il suffit de voir au moment des élections, ou bien c'est des réseaux qui sont en place avec une certaine obédience, ou bien ces présidents-là s'entourent des gens qui sont de la même communauté qu'eux, ou bien qui sont dans la même spiritualité qu'eux, ainsi de suite. La liste est longue. Voilà. C'est comme ça, pour pouvoir disposer de tous les leviers du pouvoir. On parle de démocratie, mais ce n'est qu'une image, ce n'est qu'un masque. La réalité est derrière. Je ne pense pas qu'un président, qu'il soit démocrate ou pas, va nommer quelqu'un qui n'est pas de son bord, ou bien quelqu'un qui ne peut pas lui être loyal, ou bien quelqu'un qui ne lui doit pas un service, vous savez? Parce que en donnant des facilités aux gens, lorsqu'un président donne des facilités, ou bien nomme quelqu'un, mais il espère un retour de l'ascenseur. Il espère vivement dans la loyauté de cette personne. Comme on le dit, l'argent n'aime pas le bruit. Ou bien la bouche qui mange ne peut plus critiquer. N'est-ce pas? La bouche qui mange ne peut plus critiquer. C'est comme ça. C'est ça ici. Donc, Shaoul a voulu s'assurer de la loyauté des chefs de tous ceux qui l'entourent. Donc, en opposant donc les Benjamites aux Judéens, ou bien en faisant miroiter donc aux Benjamites que si David venait à régner, eux, les Benjamites, seront légués au dernier rang, ou bien n'auront pas les faveurs qu'il peut leur accorder aujourd'hui. Donc, c'était ça. Et c'était ça. Donc, il les a accusés aussi de n'avoir rien fait, de n'avoir rien dit, alors que ces gens-là, bon, ils ne savaient rien du tout, hein, en tout cas. Et Jonathan ne faisait rien. De la même manière, aujourd'hui, les politiciens font cela aujourd'hui. Ils veulent s'assurer la loyauté des uns et des autres. Donc, mes frères, mes sœurs, rien de nouveau sous le soleil. Et il a menti même dans le compte de Jonathan, son propre fils. Son propre fils, il a menti. Alors que Jonathan, lui, était là simplement pour faciliter les choses, pour éviter une effusion de sang. Une effusion de sang. Mon frère, ma sœur, en tout cas, je le dis encore, il est vrai que beaucoup de prédications, beaucoup d'enseignements qui sont dans la dynamique du royaume maintenant demandent à ce que les chrétiens occupent des postes stratégiques dans la société, ainsi de suite. Mais moi, je ne sais pas, la compromission est grande quand même. Quand tu es chrétien politicien, la compromission est grande, mon frère, ma sœur. La compromission est grande. On a vu dans certains pays où le président se déclarait évangélique, voilà, mais il a quand même fait des guerres injustes. Par son entremise, il y a des millions, des milliers de gens qui sont partis dans l'au-delà sans avoir reçu le Seigneur Yeshua. Sans être né de nouveau. Est-ce que cette personne a été inspirée de Dieu ou bien inspirée par sa politique de prédation? Je parle des États-Unis, bien sûr, un président américain qui se disait évangélique, chrétien évangélique. Je ne sais pas, vous savez, mes frères. Je ne sais pas, moi je ne pense pas que un vrai chrétien pourrait tenir longtemps en politique. Tant le système de ce monde est corrompu, tant il faut savoir mentir en politique, tant il faut être cynique, tant il faut être cruel des fois en politique. Combien de personnes qui dérangent certains présidents ont fait des accidents ou bien ont été empoisonnés, ont été liquidés en sous-main. Combien de personnes? L'Éternel Dieu même sait. Combien de personnes ont été compromis dans des affaires d'adultère? On leur place une femme sur leur chemin pour les détourner comme ça. Quand ces personnes sont filmées, ben c'est fini. Ils ne peuvent plus parler. Hein? Ils ne peuvent plus parler. Combien? Je sais que l'Union soviétique utilisait ça avant. Compromat. Ils disent ça, compromat. Ils avaient une méthode comme ça, compromat. Ils font tout pour te faire tomber dans l'adultère et ils filment. Et après, ils te montrent. OK, soit tu fais ça, sinon on balance tout. Et les gens le font encore aujourd'hui. Les gens le font encore. Je ne sais pas si un chrétien pourrait aller loin en politique. Mes frères, mes sœurs, je ne sais pas. Parce que le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Oui, vous direz, oui. Daniel était à Babylone. Mais Daniel et ses amis étaient responsables, mais ils n'étaient pas directement dans la politique. Hein. Ils ne décidaient pas. C'était le roi qui décidait tout le temps. Ils gouvernaient, ça c'est sûr. Mais ils ne décidaient pas de la politique du roi. On vous avait dit Joseph aussi. Mais le roi lui a donné quand même, le pharaon lui a donné assez de liberté pour ne pas adorer ses idoles. Pour ne pas adorer les idoles égyptiennes. Et parmi ses serviteurs de Shaoul, il y avait Doeg, l'Édomite, hein, ou l'Éduméen, donc, qui a rapporté, même il a même ajouté, ou bien la manière dont il a rapporté les choses à Shaoul, c'est comme si David était de mèche avec Ahimelech, avec le sacrificateur. Ouais, j'ai vu le fils d'Isaïe venir à Nob auprès d'Achimélec, fils d'Achitub, et Achimélec a consulté l'Éternel pour lui. Hein? Que Achimélec, mais bon, ce n'était pas dit dans le chapitre 21, mais ici, Doeg dit que bon, c'est sûrement ça, mais bon, je ne sais pas si ce qu'il a dit est vrai, parce que ça n'a pas été noté dans le chapitre 21, il lui a remis des vivres et une épée. C'est là où je voudrais revenir sur le verset, sur le chapitre 21, parce que là-bas, j'avais dit la dernière fois que David avait utilisé de la stratégie à cause de Doeg, l'Édomite, pour ne pas éventer ce qu'il est en train de manigancer. Vous voyez, David était en fuite, et puis il y avait un serviteur de Shaoul. Là-bas, donc, David avait utilisé de la stratégie, mais néanmoins, il aurait pu prendre Ahimelech à part et lui avouer la vérité. C'est ça, son erreur. Vous savez, nous pouvons concocter des stratégies, ou bien nous pouvons élaborer des stratégies, mais si ces stratégies ne sont pas inspirées de l'Esprit de Dieu, ces stratégies peuvent avoir des conséquences désastreuses, peuvent nous amener aux catastrophes, peuvent nous amener au naufrage, et c'est ce qui s'est passé avec David. Je ne pense pas que ces stratégies, comment il a mené les choses, était inspiré de l'Esprit de Dieu. D'accord? Même si nous voulons utiliser de la stratégie, il faut que cette sagesse nous soit donnée par Dieu lui-même. Vous savez, Yeshua a dit quelque chose. Lorsque les persécutions vont venir, il a dit, lorsque vous irez devant les tribunaux, n'élaborez rien du tout. C'est moi qui interprète. Ne préparez rien du tout. Mais ce que vous allez à dire vous sera donné par l'Esprit Saint à l'instant même. C'est ça que nous devons faire. C'est ça qui a manqué à David. C'est pourquoi la catastrophe est arrivée. D'accord? Voilà. de la, c'est ça. De la même manière, c'est ce qu'a fait aussi Jacob et sa maman. Jacob et sa maman, Dieu, l'éternel Dieu, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, celui qui change les temps et les circonstances, avait promis à Jacob que le droit d'aînesse lui sera donné, qu'il va prendre, qu'il sera supérieur à son frère Ésaü. Mais ils ont, lui et sa mère ont élaboré une stratégie qui a failli lui coûter la vie, qui a entraîné des, qui aurait pu entraîner une guerre fratricide et qui a entraîné beaucoup de problèmes entre lui et Ésaü, qui l'a amené à s'exiler, à aller chez Laban, ainsi de suite, voilà, c'est ce qui s'est passé. Alors qu'ils auraient pu attendre et Dieu fera ce qu'il a fait, parce que l'Éternel Dieu a dit, nos pensées ne sont pas ses pensées, que telles les nuages sont élevés au-dessus de nos têtes, ainsi ses pensées sont élevées au-dessus de nos pensées. Mais oui, mes frères et mes sœurs, nous pouvons élaborer des stratégies, mais, mes frères et mes sœurs, que cela soit inspiré par l'Esprit de Dieu lui-même. Sinon, nous allons au naufrage. Sinon, nous irons de catastrophe en catastrophe. Mes frères, mes sœurs, c'est ce qui s'est passé avec David, avec Jacob et sa mère également, Rebecca. Hein? C'est la même chose qui s'était passée. Il faut attendre. En tout cas, je ne sais pas, hein? Dieu, l'Éternel Dieu avait un plan ici pour David. Mais nous avons vu que des fois, il ne consultait pas l'Éternel. Il faisait, comme c'est un chef de guerre, il décidait pour lui-même. Nous le faisons aussi, des fois, puisque l'Éternel nous a donné un cerveau, non, un esprit, une intelligence pour pouvoir réfléchir. Mais lorsque nous réfléchissons, soumettons cela à la volonté de Dieu. Soumettons cela à l'approbation du Saint-Esprit. Ou bien demandons carrément à l'Éternel Dieu, comme Josaphat l'a fait. Nous sommes sans force devant cette multitude. Voilà, nous sommes sans force devant cette situation-là, mes frères, mes sœurs, afin de ne pas tomber dans les pièges du diable. Parce que ce mensonge de David, cette stratégie de David va coûter la vie à Ahimelech, à tous ses frères et sœurs, à ses enfants. Il n'y a qu'un seul de ses enfants qui allait survivre. J'ai une autre question à poser, donc, à partir du chapitre, du verset 11 tout aussi. Le roi envoya chercher Ahimelech, fils d'Achitub, le sacrificateur, et toute la maison de son père, les sacrificateurs, qui étaient à Nob. Donc, il se rendit auprès du roi. Shaul lui dit, « Pourquoi avez-vous conspiré contre moi, toi, le fils d'Isaïe? Pourquoi lui as-tu donné du pain, une épée? As-tu consulté Dieu pour lui, afin qu'il s'élève contre moi et me dresse? » Ouais, il est encore dans le mensonge, dans l'accusation. Il est cynique. Ahimelech répondit au roi, « Lequel dans tous tes serviteurs peut être comparé au fidèle David, gendre du roi, dévoué à ses ordres, honoré dans sa maison ?» Est-ce que aujourd'hui que j'ai commencé à consulter Dieu pour lui, loin de moi, que le roi ne mette rien à la charge de son serviteur, ni de personne de la maison de son père? Peut-être, car ton serviteur ne connaît de tout ceci aucune chose, petite ou grande. C'est vrai que peut-être que David avait voulu aussi protéger Ahimelech. C'est pour cela qu'il ne lui a rien dit. Si c'est que il lui avait dit que, il lui avait avoué les choses, peut-être que Ahimelech ne serait pas allé chez Saoul, ne se serait pas présenté. Il aurait pris ses clics et claques et aurait fui avec David. Mais en même temps, il est allé en toute innocence. Parce qu'il ne savait rien, effectivement. Et Shaul qui l'accuse d'être en conspiration. Vous voyez, il est complètement persécuté. Il est complètement persécuté. Alors que David, de son côté, l'épargnera parce que David craignait l'Éternel Dieu. Alors que Shaul, il ne craignait rien du tout. Égocentré comme il est, il veut défendre défendre alors que cette royauté lui a été confiée par l'Éternel Dieu. Ce n'est même pas pour lui. Ce n'est même pas pour lui. Ça ne lui appartient pas. Vous voyez, il veut défendre cette royauté. Bec et ongle, il veut tuer quiconque. Quiconque, quiconque pourrait s'élever un peu, alors il faut le tuer. Voilà. Donc, il veut tout faire. Si c'est l'Éternel qui t'a donné quelque chose, alors pourquoi veux-tu aller en guerre contre les autres? Pourquoi? Pourquoi veux-tu défendre ce qui ne t'appartient pas? Il suffit de dire à l'Éternel Dieu, c'est lui, ça lui appartient. Vous voyez, on n'aide pas Dieu. On n'a pas besoin d'aider Dieu. On n'a pas besoin de l'aider, mes frères et sœurs. Mais Shaoul, voulant préserver ses privilèges, parce qu'il ne croit rien, il ne croit pas en l'Éternel, hein, il ne croit pas, il a montré par ses propos, par ses paroles, qu'il ne croit en rien du tout. Il est matérialiste, il voit que David est estimé de tous les peuples et qu'il est en avant sur lui et qu'il sera le prochain roi. Alors, il veut le tuer avant qu'il ne monte sur le trône. Ah. Et je pense que derrière cette haine de Shaoul, il y a aussi la haine de l'ennemi pour le Messie. Donc, Ahimelech s'est présenté en toute innocence devant Shaoul. Et sur ce point-là, c'est vrai qu'il ne savait rien, il n'a pas menti. Mais néanmoins, cette manière de faire va coûter la vie à Ahimelech et à toute sa descendance, à ses frères et sœurs et à toute la population de Nob, qui est de la descendance des sacrificateurs, à toute la population. Voilà. Il est vrai que l'Éternel Dieu avait dit que la descendance, que la sacrificature de Élie allait s'arrêter. Voilà. Mais de quelle manière, on ne le sait pas. Hein, on ne le sait pas. En tout cas, c'est lui seul qui le sait. Il connaît le moment où cette sacrificature allait s'arrêter. Voilà. Est-ce que, je sais pas, ce massacre me pose énormément de problèmes. Si vous avez un éclairage là-dessus, je suis preneur, mes frères et sœurs. Shaoul donc a massacré, Shaoul le verset 19, frappa encore du tranchant de l'épée noble la vie sacerdotale, les hommes, les femmes, les enfants, les nourrissons, les bœufs, ânes, brebis tombaient sous le tranchant de l'eau. Vous voyez, ce qu'il n'a pas voulu faire aux Amalécites, il le fait à ses propres frères. Vous voyez, c'est grave, c'est le diable. Il est poussé par l'ennemi vraiment. Ce qu'il n'a pas voulu faire aux ennemis de Dieu, aux ennemis d'Israël, il le fait à ses propres frères. En plus des sacrificateurs, la famille des sacrificateurs. Il tua non seulement Ahimelech et tous les sacrificateurs. En tout cas, c'est pas lui, mais c'est Doeg l'Édomite qui a fait ça. 85 personnes qu'il a liquidées en un seul instant. Or, les autres serviteurs de Shaoul ont refusé de le faire parce qu'ils craignaient l'Éternel. Pourquoi Shaoul lui-même n'a pas levé sa main pour le faire? Vous voyez comment il est? Il n'a pas voulu se souiller. Il n'a pas voulu du tout se souiller. Il n'a pas voulu. Ah oui, il a tué après les autres personnes de la vie. Je ne pense pas qu'il était seul à tuer. Mais on le met seul parce qu'il emporte la responsabilité parce que il était le roi. Donc, ils ont massacré toute la ville. Ils ont tout massacré. L'Édomite s'est réjoui. Hein? Il a massacré, donc, les sacrificateurs et 85 hommes portant les fodes. Ouais, Doeg l'Édomite. Cela rappelle le massacre des innocents lorsque Hérode Antipas a décidé de tuer le Messie Jésus en tuant des enfants de Bethléem. Hérode était un Édomite comme Doeg l'Édomite. Voilà. C'est quand même curieux de voir ce parallèle entre les deux histoires. Hein. Voilà, il a non seulement Doeg a tué le souverain sacrificateur, mais également tous les sacrificateurs, donc, avec lui. Et Hérode a fait massacrer des enfants innocents en voulant tuer le grand souverain sacrificateur, Yeshua. Voilà, en voulant tuer, il a massacré des enfants innocents. Voyez le parallèle entre les deux. C'est tous des Idumées, c'est tous des convertis, hein, des convertis soi-disant. Méfions-nous, hein, des Édomites qui peuvent être présents dans nos assemblées, les gens qui sont plutôt des amis, qui ne sont pas convertis, mais qui sont des amis simplement de l'Église et qui fomentent d'autres coups à côté. Méfions-nous. Nous avons besoin d'un don de discernement pour pouvoir discerner qui est qui, pour pouvoir discerner les esprits. En ce qui concerne les stratégies également que nous pouvons élaborer, nous en aurons besoin dans les derniers temps. Nous savons tous que l'ennemi fait tout, vraiment pour embrigader, dominer le monde entier. Peut-être que vous qui êtes en Afrique, cela ne se voit pas beaucoup, mais ici en Europe, ben, nous sommes de plus en plus pris au piège, hein, avec l'identité numérique unique. C'est-à-dire qu'arrivé un moment, tu seras représenté par une identité numérique unique qui te permettra de faire tout, de prendre de l'argent à la banque, de t'identifier, d'acheter, de vendre, d'aller chez le médecin, d'acheter des médicaments, de faire toutes tes démarches administratives, de chercher de l'emploi. C'est avec ça. Ce qui fait que si tu fais quelque chose, on peut te bloquer. On peut bloquer, tu n'auras plus assez à tes comptes, tu ne pourras plus acheter, tu ne pourras rien faire avec cette identité numérique vers laquelle on évolue. Voilà. Toute ta santé sera numérisée, tout seront numérisés. Voyez, nous allons vers ça. Et puis avec la disparition de l'argent liquide, on aura de l'argent numérique. Donc, alors là, c'est ça, ça va être le comble, hein, d'accord? Donc, nous pouvons, avec les chaînes de blocs également, où ils veulent mettre des chaînes de blocs en place pour des transactions sécurisées avec traçabilité. Donc, nous sommes de plus en plus pris. Mais bon, ça viendra aussi dans les pays en voie de développement, ça c'est sûr. Mais ici, les choses sont bien avancées, bien, bien avancées. Or, que l'Éternel nous donne vraiment la sagesse. Mais comment faire? Comment allons-nous faire, mes frères, mes sœurs? Que faire devant? Nous sommes sans force devant cette situation. Il n'y a que l'Éternel Dieu seul qui pourra nous délivrer. Moi, je pensais que nous ne connaîtrons pas ces choses. Peut-être, moi, je pensais à ça, que ce ne sera pas notre génération, mais mes frères et sœurs, ça va être notre génération. Je crains fort que les choses s'accélèrent dans les mois et les années à venir et que le Seigneur Yeshua revienne rapidement. C'est pas bientôt, mais rapidement, mes frères et sœurs. Donc, nous devons nous préparer. Nous devons préparer, nous devons vraiment, c'est vraiment un temps de prière, mes frères, mes sœurs. Un temps de prière, un temps d'abnégation, un temps de fidélité, un temps d'être sérieux avec l'Éternel Dieu. Un temps d'obéissance, un temps vraiment d'obéissance, un temps de sanctification. Mais oui, mes frères et sœurs, un temps de sanctification. Vous savez, ne profitons pas. Moi, bon, je me dis, peut-être que vous allez me trouver extrême, mais ne cherchons plus à profiter de ce monde. Cherchons plutôt vraiment à connaître l'Éternel Dieu, à le connaître à travers son Fils Yeshua. Ainsi, il nous donnera la sagesse nécessaire pour vivre ces moments-là. Chacun à son niveau. comment faire. Et puis de plus en plus, les lois sont répressives, de plus en plus, hein. Il va avoir des choses que les assemblées ne pourront plus prêcher. Ça va être dur, ça va être quelque chose. Vraiment, je pense que c'est maintenant qu'on va voir les vrais chrétiens. Il y a ce verset qui dit que même la terre, ou bien l'univers tout entier, gémisse pourquoi? Pour la révélation des enfants de Dieu, ou bien des fils de Dieu, des fils d'Élohim. Mais oui, ou bien souffre, la terre entière souffre, gémisse. Voilà, mes frères et sœurs, c'est maintenant que nous allons voir qui est qui. Nous sommes dans une période où nous devons voir qui est qui, véritablement. Ici, on a vu qui est qui. On a vu David, on a vu Shaul, on a vu les serviteurs de Shaul, on a vu Doeg l'Édomite qui n'a pas eu froid aux yeux et qui a frappé les sacrificateurs de l'Éternel Dieu. Alors que David, par deux fois, même, oui, par trois fois, avait le pouvoir, la capacité de tuer Shaul. Mais il ne l'a pas fait parce qu'il a dit, c'est loin de l'Éternel. Voilà ce qu'il disait, c'est loin toujours de l'Éternel. Même si ces gens le poussaient, il ne voulait pas le faire. Il a laissé l'opportunité à l'Éternel de régler le problème. Mes frères et sœurs, il l'a fait pour Shaul. Pourquoi il ne l'a pas fait pour les autres? Il est vrai que Achimélec, étant de la descendance d'Élie, est frappé donc par cette malédiction. Mais est-ce que c'est de cette manière qu'il devait disparaître? D'autant plus que ça n'a pas cessé, puisque sa lignée n'a pas cessé, puisque Abiathar a pu s'enfuir. Et Abiathar sera déchu de son sacerdoce par Salomon. Je pense que si Ahimelech avait été laissé en vie avec tout, c'est Salomon qui allait faire le boulot, c'est ce que l'Éternel Dieu a prévu. Mais il y a eu ce scénario. Bon, je ne pense pas, même si tout ce qui arrive n'est pas étranger à l'Éternel Dieu, mais c'est vraiment un passage qui me gêne. Qui me gêne un peu. Parce que c'était quand même une mort très très violente, hein, une mort violente. Et si c'est que ça devait s'arrêter, si c'est l'Éternel Dieu qui avait prévu cela, je pense que Abiathar ne se serait pas échappé. Hein, ne se serait pas échappé. Voilà, c'est pourquoi je dis que c'est pas la volonté de Dieu ça. Parce que Shaul a commis un assassinat. La Bible dit, tu n'assassineras pas. Shaul a commis un assassinat. Avec Doeg l'Édomite, ils ont commis un assassinat. Des assassinats même. Et ils ont massacré toute la population alors qu'il avait refusé de le faire pour les Amalécites en épargnant les... Vous voyez, il est complètement retourné. Il est complètement maboule. C'est la confusion ça. Ouais, c'est pourquoi je dis que il y avait un esprit maléfique derrière lui, puisque cet esprit maléfique qui venait le posséder de temps en temps était derrière, en massacrant les gens qui croyaient en l'Éternel Dieu et en épargnant ceux-là qui ne croyaient pas en l'Éternel Dieu. Et le fait d'avoir épargné certains Amalécites a donné à Man plusieurs années après, Aman, dans le livre d'Esther. Aman est venu après Aman l'Agagite, donc descendant du roi Agag. Hein? L'Agagite, et a voulu tuer, commettre un génocide contre la communauté israélite de l'Empire perse. Donc, moi, je dis ici que ce n'était pas la volonté de Dieu que Ahimelech et tous les sacrificateurs meurent de cette façon, mais Shaul a commis un assassinat. Puisque si c'était la volonté de Dieu, normalement, Abiathar ne devait pas s'échapper. Voilà. Mais Abiathar a pu s'échapper et je trouve que ce n'est pas de la volonté. Si vous avez une autre idée là-dessus, s'il vous plaît, envoyez-moi un message, envoyez-moi un écrit, envoyez-moi un vocal, ou bien laissez un commentaire sur le site campagnepouryeshua.com. Mes frères, mes sœurs, voilà. Donc, Abiathar était le seul à s'échapper. Il est allé rejoindre donc David et lui a tout rapporté. Et David a reconnu son erreur. Il aurait pu dire les choses à Ahimelech et Ahimelech ne se serait pas présenté devant Shaoul. Il aurait fui avec David. Il aurait fui avec David. Ou bien, ils auraient pu organiser la défense de Nob contre Shaoul avec les 400 hommes donc de David. Il ne sera pas présenté. Ou bien David aussi aurait pu demander donc à l'Éternel Dieu ce qu'il fallait faire. Il ne l'a pas fait. Donc il a usé de stratégie en mentant. Et puis voilà, j'avais dit la dernière fois qu'il n'a pas menti, mais c'était quand même du mensonge, voilà, hein, je m'en excuse, voilà, c'était du mensonge quand on évalue par rapport donc à quand on évalue donc par rapport à ce chapitre 22, il aurait pu dire la vérité à Ahimelech à face, hein, face à face, ou bien le prendre en aparté, prendre Ahimelech à part et lui avouer les choses, puisqu'il ne voulait pas que Doeg, l'Édomite, écoute ce qu'il allait dire. Donc, David, donc, durant toute sa vie, a protégé donc Abiathar, qui est devenu le souverain sacrificateur de David, qui a exercé sous David jusqu'à ce que Salomon le décharge à cause de ce qui s'est passé avec Adonija, je pense, oui, c'est ça. Ou bien, oui, c'est ça, oui. Donc, voilà. Que l'Éternel Dieu nous donne la grâce, nous accorde ce don de discernement, hein, ce don de discernement, cette sagesse, afin que nous sachions comment nous conduire dans les périodes à venir. Parce que ça va être difficile. Bon, je crains fort, hein. Je ne sais pas dans combien de temps toutes ces choses vont se mettre en place, mais les choses s'accélèrent de jour en jour. Donc, l'identité numérique unique pour tout le monde, tous les citoyens européens ici en Europe et bientôt sûrement aussi dans les pays en voie de développement. Mais ici, en Europe, les choses s'accélèrent de plus en plus. Il y a même un pays qui a offert 200, je pense que c'est l'Australie, ou bien le Japon, mais je ne sais plus, mais un pays qui offre 200 dollars ou 200 yens pour toute personne qui prend l'identité numérique. Ce n'est que le début. Ils encouragent pour que les gens s'inscrivent. Mais bientôt, ce ne sera pas coercition. Ou bien, l'identité numérique nous sera attribuée automatiquement. Mes frères, mes sœurs. Donc, prions et demandons à l'Éternel Dieu de nous accorder ce don de discernement. Enfin, hein, de ne pas faire obstacle, de ne pas freiner ses plans. Parce que sûrement que David a freiné ses plans, comme aussi Jacob et Rebecca ont freiné ses plans. Et comme aussi Abraham aussi a fait. Vous voyez, Abraham a voulu aider Dieu en donnant naissance, en allant vers sa servante Agar et pour ce qui a donné Ismaël. D'accord? Voilà, donc Dieu n'a pas besoin de notre aide, mais nous avons besoin de lui obéir parce que ses pensées sont au-dessus de nos pensées, hein, mes frères, mes sœurs. Ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Donc, avant nos décisions, avant de parler stratégie, avant de parler sagesse, avant de parler prions, mes frères, mes sœurs. Prions, enfin d'avoir du discernement pour ne pas dire n'importe quoi, pour ne pas aller au naufrage. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen et Amen.